C'est la presse, Julie, qui nous annonçait ça ce matin. Denis Lessard, que tu connais bien, qui est un journaliste émérite qui suit les activités de l'Assemblée nationale, nous apprenait que le gouvernement du Québec envisageait de faire un déconfinement, mais au lieu de faire du mur à mur, le faire par région, des régions un peu plus chaudes, des régions moins chaudes, et peut-être de reconfiner des sous-régions. Alors, en point de presse, plus tôt aujourd'hui, le premier ministre François Legault a confirmé qu'il envisage un reconfinement par région et même par sous-région si jamais une deuxième vague se confirme. Là, tu as vu les chiffres, là, encore en augmentation, tu as 180 quelques.
En fait, le chiffre, c'est 20 cas par million d'habitants. Alors, à 187, on dépasse le 20 cas par million d'habitants. Et c'est ce qu'ils disent, là, si ça dure plus d'une semaine, ces chiffres-là. Ce qu'il disait, M. Legault, il dit pour l'instant, je pense pas au reconfinement, mais si jamais je devais le faire, il est clair qu'on va envisager de le faire par région et par sous-région. Puis l'autre chose qu'ils ont dit aussi, Robert, c'est que, bon, ils ont commencé, tout ce qui a été déconfiné à la toute fin, c'est les bars. Alors, il dit ça aussi, ça pourrait être, ils pourraient faire un pas de recul à l'égard de certains établissements, oui, mais... organisations ou événements qui ont été déconfinés à la toute fin. Alors, ça aussi,
je ne sais pas s'il y a des journalistes qui lui ont posé la question pendant son point de presse. Là, les chiffres qu'on a là maintenant, là, OK, c'est des chiffres qui arrivent après la rentrée scolaire. Tu comprends-tu? Il y a pas mal de monde qui sont retournés à l'école et c'est peut-être normal de se retrouver avec une augmentation des cas qui n'est pas nécessairement très, très significative, mais c'est peut-être le résultat du retour à l'école.
Ben Robert, oui, non, parce que, écoute, premièrement, il faut qu'ils regardent ce qui se passe partout dans le monde. Et partout dans le monde, là, on annonce la deuxième vague, puis on sent qu'elle est à nos portes. Alors là, il y a la rentrée scolaire, t'as raison, mais ça fait partie de notre quotidien, ça fait partie de notre réalité. Alors, et ça va durer toute l'année, la rentrée scolaire, là, l'école, elle va durer jusqu'au mois de décembre. Puis, alors, il faut conjuguer avec ça. Puis, t'as les épisodes de grippe, Robert, là, qui vont arriver aussi. Parce que pendant l'été, on vit beaucoup plus dehors. Et dehors, ils se sont aperçus que le virus était beaucoup moins, il se propageait beaucoup moins. C'était plus difficile de l'attraper d'une personne à une autre. Mais là, on va commencer à rentrer dans les maisons. Il va faire plus frais. La saison des grippes va arriver. Alors, tout ça mélangé ensemble fait craindre qu'il y a une recrudescence. Et ils veulent... Moi, je pense qu'ils vont être très prudents cette fois-ci, Robert. Ils vont agir plus tôt que trop tard. Et que s'il faut isoler des régions ou mettre des lumières rouges, des lumières jaunes dans certaines régions, moi, je pense qu'ils vont être assez rapides là-dessus parce qu'ils voudront pas que ça dégénère.
On peut-tu parler du conseil de ville à Trois-Rivières? Encore une fois, je ne sais pas si tu as écouté les épisodes hier dans l'émission avec Marie-Annick Mercure et Mme Renaud Martin. Écoute, Marie-Annick Mercure est en feu de ce temps-là. Je sais pas, as-tu réentendu l'entrevue que j'ai faite avec elle hier?
Non, okay. J'ai pas entendu. Ben, j'étais là-dessus que je m'excuse.
Non,
là,
mais
c'est correct.
Hein. Je vais te le résumer vite, là. C'est que Marie-Annick Mercure dit, que là, elle va compléter son mandat, mais elle n'est pas capable de supporter, de subir les politiciens qui sont hypocrites. Et elle identifie Valérie Renaud-Martin, OK, en disant que ça n'a pas d'allure de faire des sorties comme ça, sorties à la suite d'accidents de la circulation. Et là, Valérie Renaud-Martin, en disant qu'il fallait faire ce qu'il fallait pour éviter les accidents, l'autre la traite d'hypocrite. Puis là, hier, Marie-Annick Mercure a même sorti une histoire comme quoi elle s'est contredite parce que on parlait du salaire des fonctionnaires. Pas des fonctionnaires, du salaire des élus à Trois-Rivières. Et tu sais que le président de la société de transport à Trois-Rivières avait un salaire, ça va? Comme ils prennent un civil, le salaire, Valérie Renaud-Martin disait, on va voter là-dessus, puis on va se retirer ce montant-là. OK, là-dessus? OK, écoute la suite.
On a aussi le traitement sur les élus municipaux qui va être modifié parce qu'on sait qu'on a un nouveau président à la SCTR. Donc, on va enlever de notre salaire d'élu le montant qu'on va donner au président de la SCTR.
Ah, c'est une bonne affaire, ça. Les gens vont...
Vu que, tu sais, dans le fond, on se répartissait la prime qu'on avait quand on siégeait en tant que président sur le SCTR, on se répartissait ça à tous les élus. Mais maintenant qu'il est de l'extérieur, cet argent-là, en fait, on n'a plus à se le répartir, donc on l'enlève de nos salaires et... pour permettre, dans le fond, une rémunération au président, au nouveau président de la SCTR. Donc, okay. Ça va faire partie des
bonne,
points.
Bonne journée de travail. À bientôt. Bon, alors, Marie-Annick Mercure a entendu ça. Elle avait vraiment le feu au derrière. Elle disait, là, non seulement son discours n'est pas correct, mais en plus de ça, elle-même aurait voté pour qu'on conserve le salaire en question dans une séance de travail à huis clos. L'as-tu, Serge? Voici ce que ça donne.
Mais tu sais, moi, je suis pas là pour plaire ou déplaire.
Non, c'est pas celle-là, Serge, je m'excuse. Non, mais pas plus grave que ça. Cela étant dit, OK, y a deux choses là-dedans, puis je vais te laisser parler ensuite, puis je vais t'écouter, Julie. Deux affaires. La première chose, on peut-tu dire d'un collègue de travail en public qu'il est hypocrite? Puis en plus de ça, est-ce que tu peux utiliser des éléments de discussion à huis clos pour être capable de faire la démonstration de ce que tu avances?
Ben écoute, Robert, c'est dire que quelqu'un est hypocrite, là, c'est... Elle peut le dire, là. Puis Marie-Annick, là, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, moi, je ne la connais pas personnellement, mais c'est un personnage coloré qui dit ce qu'elle pense, puis elle le dit haut et fort, que ça plaise ou que ça ne plaise pas.
Je l'ai retrouvé, on va l'entendre tout de suite, puis on va te laisser poursuivre ensuite. Okay. Vas-y, Serge.
Tu sais, puis dans cette entrevue-là que j'ai écoutée, bien, tu sais, vers la fin, là, vous lui demandez qu'est-ce qu'il y a à l'ordre du jour aujourd'hui, puis j'ai un autre exemple pour souligner son manque de transparence que je vais vous donner, là. Puis elle mentionne, par exemple, qu'on ben là, on va voter une baisse de salaire, hein, parce que le président de la FCPA n'est plus un élu, puis qu'on se répartit cet argent-là. Puis elle mentionne que c'est une bonne affaire, ça, elle dit ça en public, mais la réalité, M. Pilote, c'est qu'on a eu un vote à huis clos là-dessus, parce qu'on n'arrivait pas à s'entendre sur ces questions-là, puis que Mme Renaud Martin voulait qu'on garde l'argent et qu'on se la ferme. Elle a voté contre ce point-là, à huis clos, et en public, elle a voté pour, et elle a même dit que c'était une bonne affaire. Fait que c'est ce genre de comportement précis-là que moi, je suis plus capable d'endurer ça.
Voilà.
Ben écoute, Robert, écoute, normalement, là, on fait pas ça. Là, écoute, quand tu t'acceptes d'embarquer dans un conseil municipal, quand tu es élu, tu fais partie d'une équipe, tu vas pas laver ton linge sale en public, là. Tu vas, premièrement, tu mets pas les discussions qui ont lieu à huis clos, tu sors pas ça sur la place publique, tu dénonces pas comme elle, ou en tout cas, tu traites pas une collègue d'hypocrite. Ces choses-là, là, c'est très ordinaire. Des choses qui se font pas vraiment. Quand t'es pas satisfait, Robert, de ce qui se passe, de la façon dont ça se passe, quand t'es pas content, là, quand tu dis, ben, c'est pas ma place, je suis pas faite pour ça, j'aime pas la façon dont ça se passe, j'aime pas ça, les discussions, puis tu t'en vas, tout simplement, tu laisses ta place. C'est ce qu'elle devrait faire, Mme Marie-Annick Mercure. Maintenant, comme on la connaît, elle aime ça, elle, dire ce qu'elle a à dire sur la place publique, elle veut être transparente, elle a pas la langue de bois, elle est parfois crue dans ses propos, mais elle a, en fait, la qualité de ses défauts, est authentique, elle est vraie, est honnête à la limite, mais c'est une drôle de façon de régler ses comptes, surtout quand on a décidé d'aller en politique. Quand on a décidé d'aller en politique, on sait qu'il y a plein de choses qui se font, qui sont pas à notre goût, mais ça fait partie de ce qu'on doit, je dirais pas endurer, mais ça fait partie de choses avec lesquelles on doit conjuguer,
mais avec lesquelles on doit travailler. Est-ce que le public, Julie, n'est pas rendu là? Est-ce qu'on veut pas ça? Est-ce qu'on ne désire pas ça? C'est-à-dire les politiciens qui n'ont plus la langue de bois, les politiciens qui vont dire les choses comme elles sont, comme ils administrent notre argent, nos taxes et nos impôts, fini les cacheteries, puis quand quelqu'un fait une coche mal taillée, tu le dis publiquement et tu te sers de ton droit de parole à titre d'élu, ce que fait Marie-Annick Mercure, peut-être.
Ben, tu sais, Robert, là, quand tu dis les citoyens, ce qu'ils veulent, là, fini les cacheteries, t'as raison, ils veulent de la transparence, ils veulent savoir ce qui se passe, mettons, les chiffres, les décisions, les contrats qui sont donnés. Ça, les citoyens sont en droit de le savoir. Ils veulent beaucoup de transparence de la part des élus. Mais que Marie-Annick Mercure traite Valérie Renaud-Martin d'hypocrite, là, je vois pas ce que ça donne de plus à monsieur et madame tout le monde. Je vois pas. Tu sais, la transparence, c'est de la transparence dans la façon dont ils gèrent la ville, parce qu'ils sont imputables, on les a élus, puis ils gèrent des fonds publics, ils gèrent nos taxes. Ça, c'est correct. Mais d'aller se chicaner sur la place publique, puis se traiter d'hypocrite, puis de ci, puis de ça, ça c'est pas l'intérêt public, là. C'est pas d'intérêt public, puis je vois pas où est la plus-value pour les citoyens là-dessus.
OK. Il y a un auditeur qui veut nous parler au téléphone à 376-1069. Sylvain, bonjour.
Oui, bonjour. Bonjour, Madame Boulay, M. Pilon.
Bonjour, Sylvain.
Oui. Moi, c'est une question concernant le corona. Ça fait plusieurs de mes clients qui me mentionnent la même chose. Puis là, c'est rendu que c'est le troisième qui travaille en santé. Je crois qu'il y a ça, là. Tu sais, c'est pas que je crois pas à cette maladie-là, là. J'y crois, puis je porte le masque comme tout le monde, puis tu sais, je fais attention. Sauf que, là, ça en fait trois qui travaillent dans les hôpitaux qui me disent, du moment qu'il y a un décès, peu importe le décès, s'ils font un test, puis qu'ils découvrent qu'il est porteur du corona, tout de suite, ils inscrivent corona comme cause de décès. Autrement dit, j'ai même un de mes clients, que sa mère est morte, cancer généralisé, ils ont découvert qu'elle avait le corona. Au lieu d'écrire cancer, ils ont marqué corona. Pourquoi ils faussent les données? Avez-vous une réponse? Avez-vous entendu parler de ça?
Est-ce
des gens de la santé qui peuvent nous expliquer ça?
Là-dessus, d'abord, il faudrait avoir la nouvelle, là, le factuel de la chose. Là, vous l'avancez, vous le dites en public. Moi, j'ai pas de confirmation de ça. Mais je sais qu'Éric Duhaime, plus tôt cette semaine sur nos ondes, a parlé d'une étude américaine qui racontait que, pour ce qui est des décès de COVID à proprement parler, je pense que c'était juste 6% de gens qui avaient pris COVID quand ils seraient décédés. Pour ce qui est des autres, c'était de la comorbidité. Il y avait d'autres problèmes de santé. Julie, tu voulais répondre?
Ben Robert, tout simplement, tu as raison qu'il y a beaucoup de cas de comorbidité, mais ce qui marque sur le constat, là, c'est qu'est-ce qui a causé le décès? Et si c'est la personne est infectée au coronavirus, puis que c'est ça qui a fait qu'elle est décédée à ce moment-là, ben il faut qu'il marque le coronavirus. Le cancer, elle l'avait, c'est sa comorbidité, elle avait d'autres problèmes de santé, mais c'est pas ça qui le fait mourir là. Ce qui le fait mourir, si c'est le coronavirus, c'est ce qu'ils sont obligés de mettre, même si le cancer l'aurait fait mourir peut-être dans deux semaines ou dans un mois, là.
Bien, moi, les trois personnes qui travaillent en santé, ce qu'ils ont reçu comme directive, qui me disent, c'est sûr, moi, j'ai pas de preuve, je vais juste répéter ce qu'ils m'ont dit. Ils m'ont dit, perdez pas votre temps à chercher plus loin. Si vous constatez qu'ils ont le corona, ça arrête là, vous marquez corona.
Oui, mais ce serait quoi leur intérêt?
Ben c'est ça que je sais pas, puis c'est ça qui m'agace. D'habitude, il y a toujours une question d'argent, mais ça peut pas être ça. C'est-tu qu'ils veulent vraiment que le monde en aille peur, puis que le monde écoute, puis qu'ils portent le masque? Mais moi, ce qui m'agace, c'est que si c'est vrai ce qu'ils m'ont dit, ben c'est mentir à la population. Puis ça, c'est agaçant.
Parce que ce que j'entends, ça résonne un peu comme le discours des complotistes, trouve pas, Julie?
Oui, effectivement, Robert, tu as raison. Moi, je pense pas qu'ils ont cherché à faire peur aux gens. Je crois que les personnes vulnérables, les personnes âgées qui avaient déjà d'autres problèmes de santé, qui étaient fragiles, vulnérables, ont été atteints davantage. Ils sont décédés de ça. Mais vous avez raison, monsieur, qu'il y avait d'autres maladies sous-jacentes puis qu'ils seraient peut-être partis de toute façon la semaine d'après ou le mois d'après. Vous avez raison là-dessus. Mais sur le constat de décès, il faut marquer qu'est-ce qui a provoqué la mort au moment où la personne... Est-ce qu'il y a eu un agent...
Peut-être que d'autres auditeurs qui travaillent en santé pourraient appeler puis soit me faire mentir ou dire que oui, c'est la directive, faut... Du moment que le mot corona en inscrit, tu sais, il dit pas que ça existe pas, puis je fais pas partie de ceux qui croient à la théorie du complot. Mais c'est juste ce point-là, je trouve ça agaçant si c'est vrai que qui inscrivent corona.
Mais écoutez, ce qu'on va. Merci beaucoup d'avoir téléphoné, puis tu sais, là, il faut aller à la pause. Et éventuellement, là, on va analyser les statistiques de mortalité, tu sais, sur 5 ans, là, puis on verra, tu sais. Année après année, si on est à peu près dans la bonne moyenne, bon, on se dira que ces gens-là seraient morts de toute façon. OK? Et qu'il n'y a pas eu plus de morts. Moi, je pense qu'il y a eu plus de morts en raison de COVID-19, mais que ce ne sera pas des morts qui sont liées seulement qu'à COVID-19. On s'entend là-dessus, Julie?
C'est ça.
Hey, il y a Luc Tremblay qui m'écrit à propos de Marie-Annick Mercure. OK? Tu sais qui, Luc Tremblay?
Bien sûr.
C'est le conseiller à la ville de Trois-Rivières. Là. Il m'écrit, je vais te lire ça après la pause, ça va? Midi 48 minutes, Julie, toujours là avec nous autres.
Oui,
fidèle au rendez-vous, c'est le fun de t'entendre. Et je le répète, on n'est pas ensemble en studio. C'est interdit d'avoir du monde en studio. C'est les règles de la station. Alors, Julie a été branchée chez elle et elle fait une tournée de sa maison. T'es rendu à quel endroit, là, dans ton studio? Est rendu où?
Oui. C'est ça que je disais à Serge. Je disais, écoute, faudrait peut-être que quelqu'un vienne voir s'il y a des endroits qui seraient mieux que celui-ci.
Non, mais c'est très bien. Le son est formidable, là. On t'en bouge plus. Je sais pas ce que t'es. Je te parlais du conseiller Luc Tremblay qui m'a envoyé ça, mais il veut pas parler à la radio, là, mais il m'a quand même parlé du code d'éthique des employés, pas des employés, des conseillers autour de la table du conseil. Je peux-tu te le lire?
Bien sûr.
À propos de la confidentialité, parce que Marie-Annick a parlé hier dans mon émission de conversation qui avait eu lieu à huis clos. Puis toi, tu dis tantôt, puis toi qui étais au Conseil des ministres, je pense que tu peux pas sortir ce qui se dit là. Hein, ce qui est,
non, si t'es pas content, tu t'en vas, là, tu sais.
OK, c'est ce qui se dit là, ça reste là.
Notre goût.
Non, mais tu peux pas sortir de là et aller dire à l'extérieur du Conseil des ministres ce qui s'est dit là, c'est privé, là, c'est secret, c'est ça. Alors ici, il m'envoie chapitre 6, confidentialité, protection des renseignements personnels. Tout membre du conseil doit respecter la confidentialité des informations non disponibles au public dont il a eu connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions. Il lui est donc interdit de les utiliser, de les communiquer ou de tenter de les utiliser ou de les communiquer tant pendant son mandat qu'après celui-ci. L'article 4, ici, toujours du même code d'éthique, dit le respect, c'est-à-dire que les membres du conseil doivent faire preuve de civilité, de politesse, d'écoute, de considération et de tolérance envers les autres membres du conseil, les employés de la ville, ses concitoyens, ses contribuables, favoriser le maintien d'un climat de travail harmonieux et respectueux et d'un milieu de travail sain et exempt de toute forme de harcèlement et d'inconduite. Voilà, accepter leurs différences, etc., etc. Alors, visiblement, ce que Luc Tremblay est en train de dire en m'envoyant ça, c'est qu'elle aurait contrevenu à son code d'éthique.
Bien, c'est ça. C'est que c'est pas un comportement approprié. Puis, comme je te disais tout à l'heure, c'est pas une plus-value pour les citoyens. Tout ce qu'elle fait, c'est qu'elle discrédite une collègue, puis on fait pas ça. Si on n'est pas content, on a juste à dire, ben ça fait pas mon affaire. On peut aller le dire au maire, de personne à personne. On peut aller le dire au conseiller qui est notre collègue. On peut parler entre nous, mais on met pas ça sur la place publique. Alors là-dessus, Mme Marianic est pas correcte.
On va revenir sur les conservateurs. Tu as vu qu'il y a un sondage qui a été publié hier. Au Canada, ils sont à peu près nez à nez, les conservateurs et les libéraux. C'est surprenant. Je pensais que Justin, avec ses milliards, serait plus populaire que ça. Au Québec,
ouais, moi aussi,
c'est...
j'ai... Ouais. Moi aussi, j'ai été étonnée, Robert, mais d'après moi, l'affaire Oui Charité, là, ça leur a fait mal beaucoup, puis ça fait comme trois fois là qu'il y a des problèmes d'éthique, en particulier Justin, puis il a beau s'excuser, là, on a l'impression qu'il pense que c'est pas trop grave, mais à un moment donné, ça va finir par lui coller à la peau, là.
Ouais. Sauf qu'au Québec, ça a pas l'air de fonctionner, là, en tout cas pour les conservateurs. C'est le Bloc québécois qui les talonne de très, très près, les libéraux.
Bien, c'est clair qu'au Québec, les conservateurs, là, on a, tu sais, chat échaudé, craint l'eau froide, là. Je te dis qu'avec la dernière élection, là, on était vraiment, là, avec, tu sais, les conservateurs ont été très à droite. C'était pas les plus progressistes qui sont venus nous vendre leur programme. Alors, quand on est contre l'avortement, quand on est contre le mariage gay, Robert, ça le refroidit beaucoup, beaucoup de Québécois. Les Québécois, ils sont plus ouverts, ils ont le sang chaud, ils aiment ça quand il y a de l'émotion. Et les conservateurs étaient très loin de ça à la dernière campagne électorale, là. Est-ce que M. O'Toole va être capable de démontrer plus d'affinité avec les Québécois? Est-ce qu'il va être capable d'être plus chaleureux? Est-ce qu'il va être capable de se rapprocher de notre mentalité, de notre personnalité comme Québécois? Il y a encore beaucoup de défis pour lui.
Oui, mais sauf qu'il bon, a l'air sympathique. Tu as vu, il y en a qui ont même parlé en fin de semaine dernière des éditorialistes de l'effet Jack Layton. Qui pourrait s'approcher de ça. On pourrait le trouver sympathique. Puis lui, il a tenté de casser l'idée de l'avortement. Lui, il est pro-choix. OK? Sauf qu'il y a encore des journalistes qui posent la question à Martel, qui est devenu son lieutenant. C'est là que je veux t'amener. On repose, tu sais, les journalistes, les animateurs, tu sais, reposent toujours la question comme si c'était l'enjeu majeur. O'Toole le dit dans la campagne à la chefferie, « Je suis pro-choix. On peut-tu passer un autre appel? »
Oui, mais Robert, c'est parce qu'il a gagné à la chefferie parce que les gens de droite, les purs conservateurs là, qui sont anti-avortement, anti-mariage gay, c'est eux qui l'ont appuyé pour qu'il puisse gagner. Alors, il y a un discours qui sonne faux par rapport aux autres candidats là, qui l'ont appuyé pour qu'il gagne à la chefferie. Alors, c'est pour ça qu'il va se faire... Ça va le talonner encore un bout de temps, là, parce que les gens vont le challenger, là. C'est-tu ce que vous pensez vraiment ou c'est parce que vous le dites parce que vous savez qu'au Québec, c'est le discours qu'il faut tenir? Alors, là-dessus, là, il faut voir... Lui, il va mesurer, là, quand il va dans l'Ouest canadien, est-ce que son discours pro-choix tient la route? Alors, c'est la dualité des conservateurs, là. Quand on est dans l'Ouest canadien, les gens sont beaucoup plus à droite, beaucoup plus conservateurs. Et quand on est au Québec, ben on est plus progressiste, nous. Alors, c'est le défi d'un chef. Alors, il a beau être pro-choix, est-ce qu'il va tenir ce langage-là partout dans tout le Canada?
Lieutenant au Québec, OK? Alain Reyes, qu'on va recevoir en entrevue tantôt, a été remercié de cette fonction. Un lieutenant, là, pour un chef de parti qui n'est pas au pouvoir, ça fait quoi?
Ben, en fait, écoute, moi, je pense que M. Reyes faisait un job extraordinaire, premièrement. Là, un lieutenant, c'est un peu le... Je te dirais, c'est le porte-parole du chef du parti de l'opposition. Là, dans ce cas-ci, c'est les conservateurs. Mais Alain Reyes était comme le lieutenant, finalement, le porte-parole, la personne qui était en charge de tout le Québec. Il y avait plusieurs députés, mais c'était comme lui qui avait qui chapeautait toute cette gang-là là, au Québec, là, puis qui était un peu je te dirais le maître-homme, là. Celui qui dirige, celui qui donne qui rapporte au chef. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire pour gagner le Québec? C'est celui aussi qui essaie de trouver des bonnes candidatures dans les comtés prenables. C'est celui qui va faire les communications souvent, qui va parler au nom du chef qui souvent est dans le Canada un peu partout. Le Canada, c'est un grand pays. Alors, c'est celui qui va parler pour les Québécois. Écoute, c'est vraiment normalement quelqu'un qui est bien positionné, qui est stratégique et qui a... Je dirais qu'il y a un bon pouvoir là pour parler au chef et orienter les décisions qu'ils prennent ou les choix qu'ils font dans les programmes électoraux. Donc, c'est un rôle qui est important, comme je le disais tout à l'heure, qui est stratégique. Puis, M. Reyes, je pense qu'il s'est très bien débrouillé avec ce rôle-là, qu'il a bien fait ce qu'il avait à faire. Je trouve ça triste un peu pour lui. Puis, je suis convaincue qu'il le dira pas, comme je t'ai dit d'entrée de jeu, il le dira pas, mais je suis convaincue qu'il est déçu de ça, certaine.
Passe une très belle fin de journée. On se retrouve demain, nous autres, pour compléter la semaine.
Oui, je vais être au rendez-vous demain, Robert.
Salut,
à toute
bye
l'équipe.
Bye.